Le journal des idées.
Avec vous, Jacques Mounier, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour.
La laïcité est devenue un sport de combat. C'est particulièrement vrai dans l'un de ces sanctuaires d'élection, l'école, Jacques.
Oui, et à lire dans l'Obs, le compte-rendu de l'enquête dirigée par Sébastien Rocher auprès de 9000 collégiens des Bouches-du-Rhône, on prend la mesure de cette profonde évolution. La religion est devenue un marqueur social en France, constate le directeur de recherche au CNRS. Et l'on voit bien que la question aujourd'hui ne porte plus sur les éventuelles racines chrétienne du pays, mais sur ses fondements laïques. Car l'intensité du sentiment religieux semble inversement proportionnelle au sentiment d'appartenance à la communauté nationale, comme en témoignent certains chiffres. 68% des collégiens musulmans et 34% des catholiques affirment qu'ils feraient passer leurs principes religieux avant la loi en cas de contradiction entre les deux. Des chiffres qui indiquent également une corrélation entre convictions religieuses et conservatisme ou intolérance en matière de mœurs. L'intensité de la foi est variable. Selon les religions, 83% des adolescents qui se sont déclarés musulmans, 22% des catholiques et 40% des autres confessions, juifs, protestants, etc., considèrent la religion comme importante ou très importante. Pour un autre chercheur, Alexandre Pietre, qui observe la montée de la religiosité musulmane chez les jeunes et dans les quartiers populaires, c'est une façon de faire communauté, d'exister ensemble, mais aussi de remplir un vide, celui de la mobilisation politique impossible contre les discriminations. Dohan Buy et Nathalie Funès, qui signent l'article, ont recueilli des témoignages édifiants auprès des enseignants qui confirment et donnent du relief à ces chiffres. Dans un collège de la banlieue de Tours, selon la prof d'histoire géo, chaque fois qu'elle entame le chapitre Grèce antique, c'est le cirque, tellement les élèves sont puritains. Quand ils voient dans le manuel des photos de vases grecs avec des hommes et des femmes nus, ils se cachent les yeux et les enseignants sont directement confrontés à la concurrence d'Internet et de certains prédicateurs 2.0 avec leur boniment ou leur sornette.
Bon, en tout cas, la réforme de l'orthographe va apaiser les tensions, non ?
Oui, on peut l'espérer.
Enfin, non, c'était une blague.
Oui. En fait, cette réforme, il s'agit de l'entrée en vigueur de celle qui avait été concoctée en 1990 et approuvée par l'Académie française. On se souvient qu'elle avait à l'époque provoqué une levée de boucliers dans les milieux littéraires. Pourtant, l'Assemblée des immortels, gardiens du lexique national, avait expliqué qu'elle ne faisait que poursuivre sur notre langue l'œuvre constante depuis le XVIIe siècle de rectifications cohérentes et mesurées qui rendent son usage plus sûr. Mais le sujet est sensible. Dans les pages Champs Libres du Figaro, Philippe Delerme estime que les incohérences de l'orthographe française font partie du génie et de la singularité de la langue. Pendant longtemps, rappelle-t-il, l'orthographe ne fut pas fixée. Montaigne écrivait différemment certains mots au hasard de ses pages. Puis vint Vaugelas, le XVIIe siècle, et l'on fixa. Enfin, on tenta de fixer, car un poisson aussi frais que la langue française a l'art de passer entre les mailles du filet, l'usage, la prononciation, le don d'éloigner l'orthographe de l'étymologie. L'un des points névralgiques semble être la disparition prononcée, annoncée, mais seulement partielle, de l'accent circonflexe, au point qu'un hashtag circule désormais, hashtag je suis circonflexe. L'écrivain se souvient de Fabien Boulot, l'auteur suborné de Chienne de langue française. Impossible qu'une huître n'ait pas le circonflexe qu'il a La ferme, s'insurgeait-il, tout comme la boîte. Elles ont besoin de leur petit couvercle et l'île se dessine si joliment sur son « i ». Anne-Sophie Letac, elle aussi, vole au secours du couvre-chef orthographique doté d'un charme suranné, lui qui réunit aimablement deux accents rigides et dogmatiques, l'accent aigu et l'accent grave, qui coiffe pudiquement des dames voyelles qui jamais n'accepteraient de sortir sans chapeau, et incarne une sorte de repos de l'esprit un peu aristocratique au-dessus des éléments gentiment conservateurs. Elle dénonce l'opération qui ne concernera au final que 4% du lexique de la langue française, mais qu'on qualifie généralement du terme peu ragoûtant de toilettage pour désigner la suppression des tirets, des cédilles et des lettres. Passons sur l'atroce amputation de l'oignon qui tire les larmes, sur le nénuphar privé de toute racine grecque et condamné à errer sur l'eau. Ce qui se joue, estime-t-elle, c'est la liquidation des traces du passé. L'orthographe n'est jamais qu'un immense amas de scories venues de l'histoire sans lesquelles la langue se réduit à la phonétique ou à un globish informatique qui élimine la mémoire. Mais, conclut-elle, à quelque chose malheur et bon, profitons-en pour nous débarrasser du contenu de quelques mots, benet, guêpe, piqûre, marâtre, châtiment, chômage et même, ô joie, impôt.
Merci. Jacques Mounier, en tout cas, c'est effectivement un consensus au sujet de cette réforme de l'orthographe.